tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la musique dans la Bible, avec l'aide du pasteur Louis Pernaud, qui est musicien et joueur de luth. Louez l'Éternel, louez Dieu dans sa sainteté. Louez-le dans ses tours de force, louez-le autant que sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes, le chalumeau et avec les flûtes. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'était la lecture du psaume 150.
Ainsi se termine le livre des psaumes, la dernière de ces 156 belles prières adressées à Dieu. Le point ultime de toute cette foi exprimée dans les psaumes, c'est la louange. Oui, Dieu, on sait toujours le trouver pour lui réclamer des choses, pour lui faire des reproches, pour discuter de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas, et on oublie peut-être l'essentiel. On oublie de le louer. Qu'y a-t-il de plus beau que d'avoir un cœur reconnaissant, que d'exprimer la joie, la vie, l'enthousiasme et le bonheur?
Mais si l'on sait faire de grands discours théologiques, comment exprimer sa joie, ses sentiments les plus profonds et parfois inexprimables? Ce psaume 150 nous donne la solution. Par la musique, par les instruments, par le chant. La musique, elle exprime les sentiments, les mouvements de notre cœur. Martin Luther disait que chanter, c'est prier deux fois.
On a dit que Calvin n'aimait pas tellement la musique. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a même suscité parmi les plus belles mélodies pour pouvoir chanter les psaumes. Ce dont Calvin se méfiait, c'était de l'usage de la musique dans les assemblées. Et on peut le comprendre. Est-ce là le lieu de l'expression des sentiments de l'un ou de l'autre et qui les imposerait en quelque sorte à tous? Non, certainement pas. Les sentiments sont personnels et personne ne doit nécessairement ressentir les choses comme les autres, ni au même moment que les autres.
L'assemblée du culte, pour Calvin, c'est le lieu de l'instruction avant tout, du partage de la parole. Ensuite, chacun peut prendre cette instruction et la ressentir comme il voudra. La musique avait donc une place, bien sûr, dans les cultes, mais contrôlée par la parole et au service de la parole. Elle servait à chanter les textes bibliques et les protestants ne s'en privaient pas en chantant les 150 psaumes.
Ensuite, chacun chez soi pouvait faire de la musique pour exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer, et bien sûr en particulier sa foi. La musique pouvait alors soutenir, porter sa propre prière, et prendre une forme plus libre, plus développée, plus instrumentale qu'au culte. Mais on est là dans l'intime.
Oh,
Nous venons d'écouter La Schia Chiopanga de Handel, qui sert de support musical à un de nos beaux cantiques « Seigneur, dirige et sanctifie » utilisé pour les confirmations. Mais au fait, quel rôle la musique avait-elle dans la Bible? Un rôle considérable en tout cas. On le voit dans le premier livre des Chroniques, dans les chapitres où il est question du service autour du temple. Il y avait, dit-on, 288 maîtres musiciens, au chapitre 25, verset 7, parmi 4000 chanteurs, au chapitre 23, verset 3 à 5. Cela était choisi parmi les Lévites, c'est-à-dire dans la tribu des prêtres. Il y avait d'ailleurs 24 classes de musiciens, comme les prêtres, et ils étaient vêtus de la même manière qu'eux, d'une tunique particulière en lin.
On voit donc, et peu de gens le savent, que la musique au temple de Jérusalem avait autant d'importance que le culte, que les sacrifices, et les musiciens étaient aussi importants que les prêtres, les scribes et les théologiens.
On peut s'interroger sur la raison. Pour la trouver, il faut d'abord se demander quel rôle exactement a la musique dans la Bible. On peut le savoir dans ce même livre des Chroniques, au chapitre 15, verset 16. David dites aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Il s'agissait donc d'exprimer des sentiments. On trouve la même chose dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Par la musique, le chant, exprimez vos sentiments.
Cela montre quelque chose, qui est la place essentielle qu'ont les sentiments dans la religion, et s'il y a des pasteurs et des intellectuels, il faut aussi des musiciens qui fassent retentir les choses. Le pasteur, il représente la part intellectuelle de la religion. Il est là pour aider à la réflexion, à la méditation des Écritures, pour signifier des choses essentielles par les actes religieux. Les musiciens rappelle que dans la relation à Dieu, il y a une part de ressenti. Tout n'est pas explicable, mais il y a de l'irrationnel. Et s'il faut adhérer intellectuellement à la religion, il faut aussi la vivre profondément, avec son cœur, avec ses tripes, avec toute sa sensibilité, et il faut en ressentir de la joie ou de la peine.
Parce que oui, s'il y a des joies et des peines profanes, il y a aussi des joies et des peines religieuses. La joie, c'est celle d'être sauvé, d'être aimé par Dieu. C'est la joie de la bonne nouvelle et nous devons la rechercher. Rends-nous la joie d'être sauvé, dit le psaume 51. Et la musique peut nous conduire à cette joie. Et la peine, c'est celle de vivre son péché, son imperfection comme un deuil. C'est de pleurer sur son péché, comme Marie-Madeleine offre ses larmes de repentance au Christ. Ou comme le psaume 51 qui dit « Un cœur brisé et broyé, voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. »
Le Christ, selon l'évangile de Matthieu, nous invite à ressentir tout cela très fortement. Je vais lire dans Matthieu chapitre 11, les versets 16 à 19. « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous, nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres.
Comme ils sont navrants ceux qui refusent de vivre leur religion avec leurs tripes et toute leur vie. Il faut accepter de s'affliger, de pleurer en reconnaissant sa faute, comme incitait à le faire Jean-Baptiste, et il faut aussi danser de joie quand il y a la joyeuse flûte de la bonne nouvelle du Christ. Et qu'est-ce qui peut nous faire pleurer plus profondément, plus joliment et plus purement qu'une belle musique ?
Thank you. C'était l'air de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, air barmedi. Et qu'est-ce qui peut nous réjouir autant qu'une belle musique joyeuse? Écoutons cette joyeuse flûte de la Badinerie de suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach.
La musique peut nous aider à générer en nous des sentiments spirituels forts et ainsi à nous rapprocher de Dieu. Et de toute façon, tout sentiment, même profane, peut être converti, sublimé, transmuté en sentiment religieux. Même une réjouissance terrestre peut devenir pour nous une louange à Dieu.
On le voit d'ailleurs dans ce psaume 150 que nous avons lu en ouverture. Il y est question de louer Dieu sur toutes sortes d'instruments de musique. Mais pour qui connaît l'hébreu, on voit que la plupart de ces instruments évoqués ont un double sens. Le chalumeau, ou gave, vient de agave qui signifie l'amour physique et même impudique. Eh bien oui, même cela peut être offert à Dieu comme une louange. La trompette, ou chauffard, veut dire qui est beau, plaisant, c'est bien aussi. Mais il n'y a pas que du bien dans notre vie pour louer Dieu. Le luth, nebel, veut dire aussi la chute, la défaillance, l'épuisement. Et cela aussi, on peut l'offrir à Dieu, parce que c'est quand nous sommes faibles, quand nous nous savons faibles, que Dieu peut agir en nous, et sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, nous dit Paul. Les instruments à cordes, man, et le mot de la manne, c'est-à-dire une question. Qu'est-ce que c'est? Sur nos questions aussi, nous pouvons louer Dieu. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Une question peut être une remise en cause, un doute destructeur, ou au contraire, une question qui apporte une ouverture, une remise en cause positive nous permettant de grandir.
Tout sentiment ainsi peut devenir bon s'il est bien tourné, bien utilisé. Parce que tout sentiment, c'est de l'énergie. Et toute énergie peut agir pour détruire ou pour construire. Le christianisme n'est pas la religion de l'ascétisme. Il ne refuse pas le plaisir. Le Christ est venu, il a mangé, il a bu, il s'est réjoui, il a pleuré aussi. Le but de la vie n'est pas de n'avoir ni joie ni peine, mais de convertir toute joie et toute peine à Dieu, pour que lui nous aide à ce qu'il en sorte du bien.
C'est pourquoi Jésus condamne ceux qui disent que la religion, c'est de ni pleurer, ni se lamenter, ni danser, ni se réjouir. Il faut accepter de pleurer, accepter de rire, accepter de danser de joie, accepter même de se divertir. La sainteté, ce n'est pas se couper du monde ou se priver du monde, mais d'accepter de vivre pleinement dans ce monde. D'accepter de vivre les plus grandes joies et les plus grandes peines de ce monde. Tout cela peut devenir le point de départ des plus grandes choses de nos vies.
La sagesse est justifiée par ses œuvres ou ses enfants, a dit Jésus, et c'est bien là la question. À quoi tout cela mène? Rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend ce à quoi ça mène, ce sur quoi cela débouche. Ce que cela provoque. Il faut donc savoir comment nos joies ou nos peines peuvent devenir fertiles ou productives. Si nos sentiments ne sont que pour eux-mêmes, alors ils ne sont que renfermement et stérilité. Le Christ nous en a donné l'exemple ultime. Même sa mort, même le deuil absolu, peut devenir une énergie extraordinaire de construction, d'amour, et réaliser des choses extraordinaires.
Certes, il est toujours dangereux de construire sur un sentiment. Il faut de la conviction, de la raison, de la réflexion. Mais il ne faut pas avoir peur des sentiments. Ce sont des énergies. Et il ne faut pas avoir peur de la musique qui peut susciter, entretenir en nous certains sentiments. C'est pourquoi tout sentiment peut devenir religieux si on l'offre à Dieu. Et toute musique peut être considérée comme religieuse selon l'usage que l'on en fait.
Mais les sentiments possibles ne sont pas que la joie ou la peine. Il y en a d'autres plus ténus, plus subtils, plus essentiels peut-être aussi, plus rares, plus précieux. Ce sont ceux qui sont de l'ordre de la paix, de la sérénité et de l'élévation. Et peut-être que c'est dans ce domaine que la musique peut nous apporter le plus essentiel. Les joies et les peines, nous en avons toujours beaucoup dans notre vie à partir de 1000 sources différentes. Nous avons plus que l'embarras du choix pour convertir à Dieu tous ces sentiments, bons ou difficiles. Mais la paix, la vraie paix intérieure, c'est bien difficile à trouver, surtout dans un monde qui va si vite. Or, la musique peut nous offrir cette paix intérieure.
Cela aussi se trouve dans la Bible. Que l'on pense à David, que l'on appelait pour jouer de l'harpe au chevet du roi Saül quand il était pris de crise d'angoisse ou de fureur. David jouait de sa musique et la paix se faisait pour lui. Il est vrai que la musique est plus qu'un divertissement. Elle peut agir très profondément sur nous, nous plongeant dans un état d'excitation ou dans un sentiment de bien-être, d'harmonie et de paix. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, nous dit Paul.
C'est cette musique que j'aime par-dessus tout. La musique qui finalement ne cherche pas tant à émouvoir qu'à pacifier, à donner la paix. La musique qui ne cherche pas à imiter le monde, mais à nous mettre devant le beau, l'absolu, la perfection. Et peut-être est-ce là une démarche toute protestante, mais j'aime le dépouillement, la simplicité, quand la musique se fait toute délicate, toute intérieure, quand elle est sans effet de facilité, et qu'elle passe en nous comme si un ange venait nous prendre dans ses bras pour nous déposer tout doucement dans la paix. Là, Dieu n'est pas loin.
En conclusion, frères et sœurs, nous dit Paul en Colossiens au chapitre 3, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple Varus-Saint-Thomas à Chartres et je voulais aussi vous parler d'une table ronde interreligieuse. Juifs, chrétiens et musulmans de Chartres vous invitent à une soirée interreligieuse organisée le mardi 30 janvier 2018 à 20h30 à la mosquée Anousra qui est 11 rue Robert Le Guay. C'est en face de la société Mabille qui est 113 route de Sours à Chartres. Donc il y aura une introduction avec la présentation des intervenants, une table ronde et des temps de questions et d'échanges. Et ce se terminera par un moment convivial autour d'un buffet offert par nos amis de la communauté musulmane de Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Oh,